Le journal Yves Decamp, bonjour.
Un coup de tonnerre au ciel de l'église de France. Le primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels commis par un prêtre sur un mineur. Ses avocats annoncent qu'ils font appel. Mais c'est un grand soulagement, bien sûr, pour les victimes parties civiles, y compris celles dont les faits étaient prescrits. Décision historique pour leur avocat, Maître Sauvert.
Cette responsabilité et cette culpabilité, on a les deux à la fois. Au niveau du symbole, il y a quelque chose qui me paraît extraordinaire, et je le dis encore avec une grande émotion historique.
Le cardinal Barbarin lui-même doit s'exprimer dans un instant. Invité de ce journal, Laurent Duverger, cofondateur de l'association La Parole Libérée. Un nouveau cauchemar pour le PSG, de nouveau éliminé de la Ligue des Champions en 8e de finale après un nouveau retournement de situation. Les Parisiens, qui avaient 2 buts d'avance, sont battus 3-1 par Manchester. Les supporters sont dégoûtés.
Ils n'ont pas assez mouillé le maillot à mon goût.
C'était incroyable quand même. Vraiment, j'étais choqué. Je me suis dit non, c'est pas possible. On dirait que c'était fait exprès même.
Franchement, quand on voit Paris, c'est plus un club de marketing qu'un club de foot.
Dans ce journal également, la parité en politique, il y a encore de la marge, indique une étude de l'INSEE, notamment dans les conseils municipaux, où les responsabilités ne sont pas encore suffisamment partagées. Une nouvelle étape du Tour de France présidentiel dans le cadre du grand débat. Emmanuel Macron à Gréoux-les-Bains, près de Manosque, en ce moment même, pour un débat consacré à la transition écologique. À ce propos, ne plus toucher surtout aux forêts tropicales, c'est l'appel d'une équipe internationale de chercheurs qui a calculé le temps qu'elles mettaient, ces forêts, à se régénérer. Et ça se compte évidemment en plusieurs dizaines d'années. Enfin, un livre en langue des signes pour les sourds-muets, livre en accordéon conçu à 4 mains et très poétique, nous dira Béatrice Duguet. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps encore instable.
Avec des averses, en effet, parfois un orage au nord de la Loire, du vent soutenu mais aussi des éclaircies bien appréciables. Du sud de l'Aquitaine vers le sud des Alpes, là c'est plus sec, plus ensoleillé aussi. Et puis il fait un petit peu moins doux qu'hier avec 11 à 19 degrés.
Le bulletin complet en fin de journal. 6 mois de prison avec sursis, le cardinal Barbarin est donc reconnu coupable de n'avoir pas dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat qui dépendait de son diocèse. Mauvais traitement, c'est le terme utilisé dans le jugement. Mauvais traitement infligé à un mineur entre 2014 et 2015. Tous les faits précédents sont prescrits, ce qui explique peut-être cette peine qu'on peut trouver juridiquement modérée, mais très forte symboliquement. Jean-Philippe Degnaud, vous étiez à l'annonce du jugement ce matin au tribunal de Lyon, où d'ailleurs le cardinal Barbarin n'est pas venu.
Oui, et comme vous le disiez, derrière les 6 mois de prison avec sursis, il y a un jugement extrêmement sévère à l'égard de Philippe Barbarin, qui avait l'obligation de dénoncer ce que les victimes du père Prénat sont venues lui confier dès 2010, écrit le tribunal. Ainsi, la parole de François Deveau, la première victime à avoir parlé, aurait pu être prise en compte sans qu'il lui soit opposé aujourd'hui un problème de prescription. C'est tout à fait regrettable, poursuivent les magistrats, relevant également que Mgr Barbarin a pris le soin de prévenir Rome, mais pas la justice, qu'il a fait le choix de préserver l'institution et d'éviter le scandale, qu'il a pris le risque d'empêcher la découverte de très nombreuses autres victimes et d'interdire l'expression de leur douleur. Et ça, c'est exactement ce que les victimes voulaient entendre, réagit avec émotion Maître Yves Sauvert.
Les victimes n'auront plus peur. On ne peut pas toujours dire, parce qu'on a des gens importants, des gens puissants, ils vont passer et on ne leur demandera pas de compte. Cette responsabilité et cette culpabilité, on a les deux à la fois. Au niveau du symbole, il y a quelque chose qui me paraît extraordinaire, et je le dis encore avec une grande émotion historique.
Mgr Barbarin va faire appel de ce jour. La pression médiatique dénonce Maître Jean-Félix Luciani, un des avocats de l'archevêque.
Je pense qu'il était difficile sans doute de résister à une telle pression. Je crois qu'on n'a jamais vu un procès avec, avant un procès, des documentaires, des films, des commentaires. Ça pose à mon avis une vraie question de société sur ce qu'est le respect dû à la justice et au temps du délibéré.
Un mot encore Yves, parce que ce jugement était plutôt inattendu ici à Lyon, puisque depuis 3 ans, le parquet s'était obstiné à ne pas engager la responsabilité pénale de Mgr Barbarin. Mais ce jugement correspond à celui que le tribunal d'Orléans a rendu en mois de décembre à l'encontre de l'évêque André Faure dans un dossier similaire, 8 mois de prison avec sursis, et l'évêque n'a pas fait appel. Le jugement de Lyon ce matin n'est donc pas si surprenant.
Voilà, c'est une décision de justice historique, même s'il y a appel, rappelons-le, et même si donc il y a eu effectivement des précédents. Mais Mgr Faure, lui, n'était pas cardinal primat des Gaules. Invité de ce journal, Laurent Duverger, l'une des victimes du père Prénat, partie civile dans ce procès, cofondateur de l'association La Parole Libérée. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction à ce jugement? J'imagine que c'est un grand soulagement d'abord.
C'est un grand soulagement pour nous, bien sûr, pour cette association qu'on a menée à bout de bras depuis 3 ans, et bien entendu pour toutes les victimes qu'on a pu retrouver et pour celles malheureusement qui n'ont toujours pas parlé. Je crois qu'aujourd'hui, une porte s'est ouverte. Ce combat arrive à son terme et je crois qu'on peut être que satisfait effectivement de cette décision de justice.
Et vous êtes aussi favorablement surpris, c'est-à-dire que vous l'espériez bien sûr, mais est-ce que vous y croyez ?
On l'espérait bien sûr. Personnellement, après, je suis pas très féru en droit, donc c'est vrai que c'était un débat qui était très technique. Et je suis agréablement surpris de voir que la Cour a lu ce texte de loi en notre faveur.
Alors le directeur de la revue Golias a dit ce matin que ce jugement était historique, en ajoutant qu'il serait impensable maintenant que le cardinal ne présente pas sa démission ou que Rome ne le décharge pas de sa charge d'archevêque. C'est ce que vous souhaitez aussi ?
Alors là, bon, je serais peut-être moins catégorique parce que je laisse ces gens-là à leur responsabilité. Pour ma part, c'est vrai qu'une décision comme celle-là devrait entraîner, je pense, des décisions radicales.
Le contexte a beaucoup joué, disent les avocats du cardinal Barbarin, qui évoquent la pression des médias, des documentaires et même un film, hein, grâce à Dieu, de François Ozon. Mmh. Ils mettent en doute le respect de la justice. Vous comprenez cette appréciation ?
Très honnêtement, non. Je pense et je crois que la justice a fait son travail. Elle l'a fait de façon indépendante et sereine. Le procès a eu lieu bien avant la sortie du film, qui finalement ne retrace que l'histoire de la création de l'association, ni plus ni moins. Voilà, je me fie à cette décision de justice sans chercher de faux fuyants.
Vous êtes resté croyant ?
Croyant, oui. Mmh.
Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'Église où la prise de conscience sur ces problèmes de pédophilie est maintenant réelle, mais vous lui demandez quoi à l'Église, d'aller encore plus loin, plus fort ?
Alors, j'ai répondu que j'étais croyant, ça ne veut pas dire que je soutiens l'Église. Malgré tout, on a eu, là je fais juste une petite parenthèse, on a eu des soutiens de prêtres inestimables. Aujourd'hui, ce qu'il faut attendre, c'est autre chose, je crois, que de simples éditions de brochures, que de simples annonces dans la presse ou par radio ou des faits de manche. Il faut vraiment prendre aujourd'hui des décisions radicales. Maintenant, ce problème, il faut, à mon avis, que l'Église le prenne à bras le corps. Est-ce qu'elle en a les moyens ? Est-ce qu'elle en a une réelle volonté ? Je crois que la pression qui a été mise encore aujourd'hui lui montre que les victimes ne se laissent plus faire, que la justice les entend et qu'elles sont encore présentes.
D'un point de vue personnel, il reste l'affaire Prena, qui elle n'a pas encore été jugée. Elle le sera peut-être d'ici la fin de l'année. Vous en espérez la même conclusion, j'imagine ?
Oui, parce que là, les faits sont beaucoup plus simples. Hein. Parmi mes amis, certains sont des cas non prescrits. Les faits ont été reconnus, il y a eu des aveux. Là, pour le coup, je pense que la décision sera beaucoup moins inattendue.
Donc une condamnation du père Prena et vous serez définitivement soulagé ?
Oui, bien que moi, je regarderai ce procès depuis mon canapé, hein, puisque je suis prescrit depuis longtemps. Mais effectivement, je crois que maintenant, Prena doit rendre compte aussi de ce qu'il a fait. Et je pense que la justice fera là aussi son travail correctement.
Donc pour conclure, vous attendez quoi là maintenant précisément du cardinal Barbarin, au minimum qu'il s'exprime, qu'il exprime des regrets et qu'il s'en aille ?
Alors qu'il s'en aille, franchement, je ne sais pas. Je crois que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour mettre la pression à qui que ce soit. J'ai toujours réagi comme ça. Je m'aperçois simplement qu'aujourd'hui, il n'était pas là. Je pense que ça aurait pu être un symbole, un message fort. Je dois reconnaître quand même qu'il y avait une personne présente aujourd'hui. Je tiens quand même à le signaler. Il s'agit de Mgr Braque de la Perrière, qui a fait le déplacement, qui était là pour entendre le jugement. Et je crois qu'on peut lui en savoir gré. Maintenant, pour ce qui est de la réaction de Mgr Barbarin, je crois que c'est à ses avocats de prendre la parole. Voilà, nous, on a fait on a mené notre combat. On l'a mené jusqu'au bout. Je crois qu'on peut en sortir la tête haute. Après, la décision de justice est en notre faveur. Je pense que voilà, chacun doit s'exprimer en fonction de ça et en fonction des ratas de son client.
Laurent Duverger, cofondateur de l'association La Parole Libérée, merci beaucoup d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, l'entretien avec Laurent Duverger avait été enregistré dans la matinée. Monseigneur Braque de la Perrière, dont il était question, était l'ancien évêque auxiliaire de Lyon. Il est aujourd'hui évêque de Nevers. Et puis on en parlait à l'instant avec Laurent Duverger. Le cardinal Barbarin vient tout juste d'annoncer qu'il remettrait sa démission au pape. On l'écoute.
Je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Voilà, déclaration laconique, mais claire et nette du cardinal Barbarin à l'instant, des propos recueillis par Christophe Vincent.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamps.
En politique, nouvelle étape du Tour de France présidentiel. Dans le cadre du grand débat, le président de la République en ce moment même à Gréousse-les-Bains, près de Manosque, dans le sud-est, face aux élus locaux et aux représentants des associations locales. Rencontre consacrée au thème de la transition écologique, Laurence Perron.
Oui, et comme à chaque débat présidentiel, le même tableau, des barrières Vauban, des CRS et des gilets jaunes tenus à distance. Alors comme d'habitude, hein, pendant une heure, le président est muet, il reçoit les questions en rafale. Cette fois, c'est à la secrétaire d'État à l'environnement, Emmanuelle Wargon, qu'on a demandé de distribuer la parole.
Merci monsieur le maire, je vais donc vous demander maintenant de lever la main pour les prises de parole et puis j'essaierai de tourner un peu partout.
Mesdames et messieurs les élus, monsieur Macron, bonjour, je suis paysanne boulangère, installée depuis 5 ans dans le Var et présidente de l'association des agriculteurs bio du Var.
Les questions portent sur l'abandon par le gouvernement de l'aide au bio, la concurrence des fruits espagnols, les normes écologiques qui ne sont pas les mêmes partout en Europe, l'eau aussi, mais les plus vives, ce sont celles qui sont portées par les jeunes.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ?
Charlie, c'est son nom, n'a pas eu encore sa réponse. Le président vient de prendre la parole, mais il a été prévenu par son ministre de l'Intérieur.
Vous êtes ici dans une ville thermale, où, depuis très longtemps, on a compris qu'il y a des mots, les mots du corps, et qu'il faut savoir les écouter. C'est la capacité à écouter son corps, la capacité à écouter la France, qui permet de porter de belles et de grandes solutions.
Taquin Christophe Castaner, mais en tant qu'enfant du pays, il ne pouvait pas faire moins.
Laurence Perron à Gréousse-les-Bains avec Benjamin Thuot. Sans surprise à Bordeaux, l'adjoint aux finances d'Alain Juppé est élu par le conseil municipal pour lui succéder. Nicolas Florian, 49 ans, un proche de Valérie Pécresse. Il avait été adoubé par l'ancien Premier ministre, parti au conseil constitutionnel. Il était le seul candidat. À la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, coup de projecteur sur la parité en politique. Ça fait des années qu'on en parle. Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés par une série de lois et obligations, mais les marges de progression sont encore importantes, notamment au niveau des postes de responsabilité. Car oui, il ne suffit pas d'équilibrer les effectifs, encore faut-il assurer aussi l'égalité des fonctions. Et dans les conseils municipaux, on est loin du compte, Élodie Forêt, comme le montre une étude de l'INSEE qui vient de paraître.
Alors, de 20% en 1995, les femmes sont désormais représentées à 40% dans les conseils municipaux. Ça, c'est pour le progrès. Pour le bémol, elles occupent peu, en effet, vous l'avez dit, les postes à responsabilité. Xavier Niel est statisticien et rédacteur de cette étude de l'INSEE.
C'est-à-dire qu'il n'y a que 17% de femmes parmi les maires. Et puis, plus on s'éloigne, les premiers adjoints, il y a 29%. Les seconds adjoints, il y a 38% de femmes. Parmi les autres, troisième adjoint, quatrième et tous les autres conseillers, on a 43%. Donc plus on s'éloigne de la fonction de maire, plus les fonctions sont occupées par des femmes.
Pour l'Association des maires de France, la situation n'est donc pas satisfaisante. Parmi ses propositions pour y remédier, une parité des listes dans toutes les communes. Aujourd'hui, celles de moins de 1000 habitants n'y sont pas obligées. Pour André Léniel, vice-président de l'association, c'est le seul moyen d'obtenir la parité.
Ça ferait aussi en sorte que l'ensemble des exécutifs communaux soient eux aussi paritaires. Et nous attendons que cela puisse se mettre en œuvre dans le cadre du Parlement.
Certains disent qu'il n'y a parfois pas assez de femmes qui veulent s'investir dans ces conseils municipaux. Pour vous, c'est faux ?
C'est parfois vrai sur le terrain, mais ça ne doit pas être le prétexte pour ne pas faire de nouvelles avancées.
La parité, d'abord une question de volontarisme pour l'Association des maires de France. La preuve peut-être, dans les conseils où la maire est une femme, les conseillères municipales sont beaucoup plus nombreuses.
Élodie Forêt, c'est dans ce contexte que Nantes Métropole a demandé à Jean-Claude Decaux de retirer des publicités. publicité urbaine jugée sexiste. Pub de la marque de jeans Le Temps des Cerises, dont le slogan « Liberté, égalité, beau fessier » a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Les affiches devraient être toutes retirées dans la journée. Idem au Lila, près de Paris. L'adjointe au maire, Madeleine Da Silva, au téléphone de Béatrice Duguay.
Si on tolère le sexisme dans les rues, on laisse la porte ouverte à l'appel aux violences sexistes et sexuelles. Chacun a son rôle à jouer. Et moi, je pense que dans une municipalité, si les élus laissent passer des images sexistes et que tout le monde les voit et que ça ne choque personne, alors il y a un vrai problème. Faire enlever ces affiches, c'est une mesure symbolique qui envoie deux messages forts. Celui de dire que on ne laissera plus passer les actes sexistes et les violences sexistes et sexuelles. D'autre part, on va certainement pas, en plus, laisser passer une affiche qui, en plus d'être sexiste, porte atteinte aux valeurs de la République. Liberté, égalité, beau fessier. Honnêtement, est-ce qu'on peut pas faire mieux pour les femmes la semaine de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes ?
En bref, les surveillants pénitentiaires qui restent mobilisés trois jours après l'agression de Condé-sur-Sarthe, des rassemblements ont été signalés ce matin devant plusieurs établissements, notamment bien sûr à Condé-sur-Sarthe, où le personnel a passé la nuit en bloquant toute entrée et toute sortie de la prison. Nouvelle nuit agitée à Grenoble, dans le quartier Mistral. 2000 personnes avaient participé dans l'après-midi à une marche en mémoire des deux jeunes gens de 17 et 19 ans tués dans un accident de scooter. La nuit dernière, 8 véhicules ont été incendiés, 2 personnes interpellées. À l'étranger, au Brésil, un tweet du président Bolsonaro qui fait polémique. Ça rappelle quelque chose ou quelqu'un un peu plus au nord. On y voit un homme urinant sur un autre en pleine rue pendant le carnaval de Rio. Vidéo vulgaire et obscène, d'ailleurs retirée depuis du fil Twitter, mais que près de 2,5 millions de personnes ont eu le temps de le visionner, suscitant la colère des aficionados du carnaval, puisque c'est une fête éminemment populaire et que le président cherche à dénigrer. Valérie Crova, le pays est coupé en deux.
Voici ce que sont devenus de nombreux groupes de carnaval de rue. C'est par ce commentaire que le président brésilien a rendu public sur Twitter une vidéo tournée à Sao Paulo dans laquelle deux hommes perchés sur une estrade se prêtent à une golden shower, une douche d'urine. Commentez et tirez vos conclusions, ajoute-t-il, ce qui n'a pas tardé. De nombreux internautes se sont indignés que le président brésilien ait mis l'accent sur une scène isolée pour dénigrer le carnaval, une institution au Brésil. Dans un communiqué, Jair Bolsonaro a répliqué et affirmé que cette publication ne visait pas à critiquer le carnaval. Il n'empêche, le président d'extrême droite n'a sûrement pas apprécié les nombreuses caricatures et critiques qui le visaient lors des défilés, symbole d'un hédonisme banni par les églises évangéliques qui le soutiennent. Dans la classe politique, ses adversaires s'en donnent à cœur joie. Bolsonaro n'a pas dépassé le stade anal de Freud, a commenté un député d'un parti de gauche, tandis qu'un hashtag a fait son apparition et réclame sa destitution.
En Algérie maintenant, les avocats, un millier d'avocats se sont rassemblés devant le Conseil constitutionnel à Alger pour lui demander d'invalider la candidature du président Bouteflika, candidature qu'il juge irrecevable puisqu'il faut joindre au dossier un certificat médical d'aptitude que le candidat président ne peut pas fournir. Ne touchons plus aux forêts tropicales. Si on veut qu'elles continuent à jouer le rôle de poumon vert pour la planète, il faut maintenant les laisser en paix. C'est ce que demande une équipe internationale de chercheurs qui a étudié la vitesse et les conditions dans lesquelles ces forêts arrivent à se régénérer quand elles ont été coupées pour l'agriculture ou pour l'élevage. Et ça se compte évidemment en plusieurs dizaines d'années, Sophie Becherel.
En Amazonie, en Afrique, en Indonésie, les forêts tropicales abritent une biodiversité immense. Pourtant, la moitié d'entre elles sont en régénération après avoir subi l'impact de l'homme coupé pour l'agriculture ou l'élevage. À quelle vitesse et avec quelle efficacité se passe la convalescence? C'est ce qu'ont voulu savoir les chercheurs. Ils ont isolé en Amazonie 56 sites aux conditions climatiques et de sols variés. L'état des arbres a été ausculté sur une très longue période, parfois jusqu'à 60 ans. Jérôme Chave, directeur de recherche au CNRS.
On a constaté qu'effectivement, à la fois le carbone et la biodiversité pouvaient se remettre en place dans une forêt qui était en train de se régénérer, mais que la biodiversité revenait plus lentement que les stocks de carbone. Concrètement, les espèces s'installent sur un site qui était auparavant un pâturage, par exemple. Les arbres croissent petit à petit, les espèces se remplacent les unes les autres. Et avant d'avoir un assemblage d'espèces similaires aux forêts primaires, aux forêts qui n'ont jamais été perturbées, ce que nous avons montré, c'est qu'il faut plusieurs décennies, entre 50 et plus de 100 ans.
Après 20 ans, les forêts tropicales n'ont retrouvé que 38% de leur biodiversité. Pour les chercheurs, si on veut qu'elles continuent à jouer le rôle de poumon vert, à stocker du carbone et à réguler l'émission de gaz à effet de serre, il faut avoir en tête cette échelle de temps centennale.
Et le ciel leur tomba sur la tête, ils ne pensaient pas revivre ça, les Parisiens, joueurs et supporters du PSG, hantés par le souvenir de la remontada du Barça, eh bien si. Et cette fois c'est Manchester United qui les renvoie à leur démon, 3-1 pour les Anglais hier soir au Parc, où le champion de France se pensait bien à l'abri de ses deux buts d'avance du match aller, mais deux boulettes et un pénalty plus tard, c'était la douche froide, le PSG de nouveau éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale pour la troisième année consécutive. Ce matin, les supporters avaient la gueule de bois.
Ça fait mal au cœur. Bah, déjà, la remontada avec le Barça, ça faisait mal. Je pense que ça sert à rien de changer à chaque fois des entraîneurs. Il faudrait revisiter un peu le fond du jeu.
On voyait le public, en plus on était tous derrière, on a donné de la voix pendant 90 minutes. Ils n'ont pas assez mouillé le maillot à mon goût.
C'était incroyable quand même. Vraiment, j'étais choqué. Je me suis dit non, c'est pas possible. On dirait que c'était fait exprès même. J'ai mis 150€ sur le PSG et j'ai perdu.
Je suis surpris vu l'équipe qu'ils affichent. On trouve étonnant vu l'investissement qu'ils ont fait. Qu'on ait si peu de retour d'investissement, c'est surprenant.
Franchement, quand on voit Paris, c'est plus un club de marketing qu'un club de foot. Même derrière, quand ils font venir des grands joueurs, c'est avec certaines conditions où en fait l'institution, le club, il n'est pas plus fort que ces joueurs. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ça a marché, mais ça n'a pas allé loin, en fait, parce que ça craque mentalement.
Voilà, des supporters parisiens interrogés par Thibaut Duclos. D'autant plus déçus, les supporters, que leur équipe a les atouts pour gagner, en tout cas sur le papier. Les propriétaires qatariens du club y ont mis les moyens ces dernières années. Et ça devrait d'ailleurs sans doute continuer, même si cette élimination prématurée va coûter cher, Cédric Guillou.
Le Paris Saint-Germain a perdu environ 13 millions d'euros avec cette élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. 13 millions qui englobent les dotations de l'UEFA pour une qualification en quart, ainsi que les retombées liées à la billetterie et aux droits télévisés. Même si le budget annuel du PSG est colossal, environ 500 millions d'euros, la perte de cette manne est ennuyeuse dans le cadre du fair-play financier. Ne pas le respecter peut déboucher sur des sanctions allant de la simple amende à l'exclusion de la prochaine Ligue des Champions. Le club parisien va aussi logiquement pâtir de cette nouvelle mésaventure européenne en termes d'image et de retombées marketing. Depuis mars 2017 et la remontada du FC Barcelone, le PSG traîne la réputation d'être un club de losers, le loser européen. Cette troisième élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions ne va faire qu'accentuer cette image catastrophique.
Dans l'autre match de la soirée, surprise également pour le FC Porto, battu 2-1 à l'aller et qui l'emporte 3-1 sur l'AS Roma, là aussi dans les prolongations, sur un pénalty accordé après visionnage vidéo. Allez, avant de conclure, retour sur l'information de la matinée, la condamnation du primat d'Ego, l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels commis par un prêtre sur un mineur. Ses avocats ont annoncé qu'il ferait appel. Lui-même a annoncé tout à l'heure qu'il remettrait sa démission au pape. Déclaration laconique, Christophe Vincent, c'était il y a quelques minutes.
Oui, il est 13h07 dans une salle de la maison diocésaine, derrière la cathédrale, la primatiale Saint-Jean, très exactement. Philippe Barbarin fait son entrée, l'air grave, il s'assied sans dire bonjour. À ses côtés, ses plus proches collaborateurs, le vicaire général et l'évêque auxiliaire. Sa déclaration dure 20 secondes, l'archevêque de Lyon se lève sans aucun commentaire. La seule petite explication hors micro vient d'Emmanuel Gobillard, l'évêque auxiliaire. Le cardinal Barbarin, dit-il, va bien présenter sa démission au pape, qui peut la refuser, comme en 2016, mais c'est Rome qui décidera. Quant au volet judiciaire, rien de changé, le cardinal va bien faire appel du jugement.
Christophe Vincent à Lyon. Pour terminer, ce livre en langue des signes, c'est le premier du genre, c'est une œuvre originale pour les petits et les grands. Amour rouge et amour bleu, c'est le titre. Il y a question de feu, de montagne, d'amour, de ciel, de mer et des yeux, de la pure poésie conçue à quatre mains par une illustratrice et un comédien sourd-muet, dont l'objectif est bien sûr de rapprocher les univers des entendants et des sourds, Béatrice Duguet.
Ça n'est ni un poème en langue des signes traduit en dessin, ni l'inverse. Non, c'est un livre en accordéon recto verso qui matérialise une rencontre entre un comédien sourd et muet, Leven Bescardès, et une illustratrice, Pénélope.
Les gestes en langue des signes sont un peu comme des gestes de danseurs. Moi, je trouve ça très, très beau. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai souhaité le traduire avec mon trait personnel. On crée ce qu'on est.
À la base, il y a donc l'expressivité de Leven Bescardès, auteur déjà de poèmes plus longs. Nous lui avons prêté l'une de nos voix.
Je travaille par association de gestes, comme un poète travaille par association de consonances. Le poète crée parfois des mots en mixant plusieurs. Moi, j'enchaîne les signes, par exemple ciel, puis bleu, ou bien rouge, puis feu. Ça crée un nouveau geste poétique en langue des signes. Mes rimes sont des enchaînements de mouvements qui se répondent pour créer le poème.
C'est pour ça que le poème, il est même international. Il n'est même pas de langue des signes francophone, puisque c'est une création artistique.
Monique Gendreau, interprète à l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris, a permis aux deux artistes d'accorder leur créativité, une poésie de gestes et de dessins presque initiatique, alors que les enfants sourds ne peuvent apprendre la langue des signes à l'école que dans une dizaine de villes en France.
Voilà un livre publié aux éditions Les Grandes Personnes. Le temps, un ciel très changeant, Élodie Calac.
La météo. Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Entre le sud de l'Aquitaine, la Méditerranée, la vallée du Rhône, le sud des Alpes et la Corse, c'est ensoleillé. Ailleurs, plus de nuages, de bons moments de soleil malgré tout. Il faut aussi composer avec les averses, plus nombreuses autour des Charentes, parfois accompagnées d'un orage de la Normandie vers la région parisienne et les frontières du Nord. Sur toutes ces régions, le vent reste présent, des pointes jusqu'à 50 à 70 km à l'heure dans les terres, 80 à 90 sur les côtes de la Manche, 80 aussi sur le nord de la Corse. C'est moins doux qu'hier, surtout sur le sud-ouest, comptez 11 à 14 degrés au nord, 13 à 19 au sud. Demain, ce sera ensoleillé en Méditerranée, changeant ailleurs avec des averses du sud-ouest au nord-est et sur la Bretagne l'après-midi.